Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1154 en ce samedi 11 juin. J'espère que tout le monde va bien. Une émission encore pleine d'invités avec tout à l'heure nouvel épisode de My Rock Yours avec Patrick Devin Carlotti qui nous parlera de Deep Purple. Et puis l'invité de la semaine pour cette première heure, c'est Mr Matt qui au surlendemain de non pas sa victoire mais sa très très belle deuxième place dans l'émission The Voice avait accepté de répondre aux questions de Sweet Home Chicago. Vous avez peut-être déjà entendu cette interview sur le Mixcloud, mais la voici en intégralité avec quelques extraits récupérés pendant cette émission où il reprend Jean-Jacques Goldman ou Ray Charles. Voilà, Mr Matt tout à l'heure dans la radio. On reviendra bien sûr sur Straight From The Heart, l'album de Kenny Hill, qui est disque du mois, dont on a déjà découvert deux extraits la semaine dernière. Il y en aura deux autres aujourd'hui. Et en deuxième heure, c'est Quentin Winter qui s'y colle. Quentin Winter, une belle découverte effectuée pour le compte de Sweet Home Chicago par Miss Gail Buswell, qui m'a dit « Tu devrais contacter ce garçon qui est bourré de talent, qui habite en Charente. » Quentin Winter, qu'on va découvrir avec plusieurs extraits de son EP, tout d'abord où il est tout seul, hein, Quentin Winter solo, et puis également le blues band où il est en trio. Et puis avec lequel on va revenir sur des choses qu'on connaît, hein, Edgar Winter, Johnny Winter, aucun lien de parenté entre ces deux-ci là, mais avec Quentin non. Et puis des découvertes que Quentin aura pu permettre à l'émission comme La Machine ou Rich Walikis. On reviendra également sur Stevie Ray Vaughan. Et puis en toute fin d'émission, pour illustrer cette interview, Fleuve de Quentin Winter, on écoutera un petit truc de 1972 avec Johnny Winter et Edgar Winter. Eh oui, je sais, Winter, c'est bientôt l'été, mais ça arrive tout à grands pas. On va y aller avec Monsieur Kenny Neal. Voici cet extrait de Straight From The Heart. Blues, keep chasing me.
Didn't want to do wrong, couldn't get it right. Blues keep chasing me on my trail. I said I tried to get away. Oh, I tripped and I fell. I get back up and dust my feet. Can't let these blues get the best of me. I've been trying, y'all, doing the best that I can. But these old blues don't know I'm a changed man. Blues, leave me alone, 'cause I know right from wrong. Chasing me.
once was blind, but now I see.
Voilà un album que je vous encourage forcément à acquérir, comme tous les albums du mois de Sweet Home Chicago. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver la liste sur le site de l'émission blues.radio666.com. Ne nous loupez pas également la page playlist, la page invité, la page cadeau. Il y a toujours des choses à gagner sur le site internet de Sweet Home Chicago sur le 666. Après Canyon Hill, place à Deep Purple, présenté par Patrick Devin Carlotti dans My Rock Years. La rubrique My Rock Years aujourd'hui avec un nouvel invité. Il s'agit de Patrick Devin Carlotti. Bonjour Patrick.
Bonjour Marc.
Comment ça va ?
Bonjour. Ça va très bien. Merci
d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Parce que voilà, on n'est pas au départ des gens qui sont forcément des intimes. On se connaît comme ça, j'ai envie de dire. Et puis par la musique, forcément, on a tous un cercle d'amis et puis un cercle de gens qui sont un tout petit peu plus lointains et dont on a entendu parler en bien. Moi c'est ça. Par rapport à toi, c'est ça. J'ai entendu parler de toi en bien en tant que personne et en tant que musicien aussi, parce que tu es musicien.
Oui, tout à fait, oui, je suis bassiste, oui.
Et oui, et tu joues dans quelle formation et dans quel style, Patrick ?
Alors, voilà, pour l'instant, là, je suis bassiste dans un groupe de jazz, donc un trio de jazz qui s'appelle Simple Jazz. Et donc, on tourne en ce moment, on essaye de tourner, mais c'est pas facile à cause de l'épidémie. Donc, on est surtout sur région parisienne, puisque mon pianiste et le guitariste, qui est mon frère, eux habitent sur la région parisienne.
Alors, comment vous faites ? Vous répétez sur internet, comment ça se passe?
Alors on répète, on essaie de se voir une fois par mois, c'est pas facile, mais on essaie de se voir, et sinon c'est par internet, on fait tout par internet. Ouais.
La musique qui t'intéresse, c'est uniquement le jazz ou tes goûts sont beaucoup plus larges que ça?
C'est-à-dire que j'ai une formation musicale classique, je suis l'ancien clarinettiste de musique classique, je jouais dans un orchestre philharmonique,
ouais.
Sur Paris, et en formation classique donc, et ma mère était professeure de violon dans un conservatoire, donc ça aide aussi beaucoup. Et puis j'ai continué la musique et on avait un professeur de solfège au conservatoire qui était très très ouvert à jazz, rock, un peu toutes les musiques. Et donc au fur et à mesure, on a bifurqué du classique. Je suis passé au fur et à mesure à découvrir tous les autres styles extérieurs à la musique classique.
Mmh.
Et c'est comme ça que j'avais découvert le rock, le blues, le jazz grâce à ce professeur qui était absolument génial et qui m'a aidé à aimer tous les autres styles de musique.
Donc quelqu'un d'ouvert au sein de l'institution musique type conservatoire, j'ai envie de dire, c'est pas 100% des profs qui sont dans ce cas-là quand même. C'est bien tombé.
Non, parce que mon prof de clarinette, par exemple, lui, il était très très musique classique.
Oui, oui.
Donc, quand j'ai essayé de me faire apprendre Petite Fleur de Sidney Bechet, il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit mais c'est quoi ça ? Moi c'est classique, c'est pas jazz. Bon.
D'accord. Bon, excusez-moi monsieur, je reviendrai une autre fois.
Voilà.
Et donc
comment... du coup, j'ai continué.
Ouais. Et là, te voilà arrivé toujours dans le jazz, mais à la basse. Qu'est-ce qui t'a mis à cet instrument, Patrick ?
Eh ben, toujours quand j'étais au conservatoire, j'avais fait une pause à la clarinette. Parce que j'en avais un peu marre. Moi, j'ai fait une pause à cause aussi de trouver un métier à côté, donc dans mes études. Et j'ai fait une pause et un jour, j'ai un copain qui est venu à la maison avec une basse et qui m'a montré une basse et il m'a dit tiens, c'est quoi ? Puis j'ai eu la basse pendant 2-3 jours, j'ai essayé et je suis remonté au conservatoire. J'ai dit à ma mère écoute, maman, je reprends les cours de contrebasse et puis voilà, c'est passé comme ça.
Donc basse et contrebasse, très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de Mozart à Sidney Bechet, puis de Sidney Bechet à Deep Purple, Patrick ?
Alors, ça c'est au fur et à mesure avec les coups de mes potes musiciens qui étaient avec moi à l'école et au conservatoire.
Mmh.
Puis en même temps, parce que tout le monde avait finalement des goûts, on va dire, très très ouverts. Et puis c'était surtout à l'école, au collège, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était de voir les gars qui avaient, il y avait des gars qui étaient déjà très très branchés hard rock et tout ça, et puis des gars qui étaient blues. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de découvrir aussi de mon côté voilà. Ce que c'est que ce genre de musique. Et je me suis retrouvé à acheter mon premier disque de rock avec mon argent de poche, qui a été le disque de Deep Purple, Made in Japan. Et c'est là qu'après, bah, j'ai continué à découvrir le rock.
Voilà, et puis un disque mythique par un groupe mythique, un groupe qui existe toujours, Deep Purple, un album voilà. enregistré il y a exactement 50 ans, on est en 1972, c'est un double album. Je peux te dire qu'il a aussi bercé quelques-unes de mes soirées de lycéen. On est de la même génération, Patrick. Donc
Par contre,
tu l'as pas découvert dans les années 70, ce disque-là. Tu l'as découvert peut-être un petit peu après, non ou...
bah, je l'ai découvert après, moi. Ouais. Moi, oui, je l'ai découvert après, parce que dans les années 70, comme j'étais très, très musique classique, j'avais pas l'occasion. Et c'est après, dans les années... Moi, je l'ai découvert honnêtement dans les années 75, à peu près, entre 75 et 80.
Oui,
et
quand même, voilà, c'est voilà. à peu près comme moi. Et ce voilà. disque-là qui fait un petit peu, effectivement, tu l'as dit, la synthèse entre le blues rock et le blues, tout simplement, et puis le hard rock. Je te dirais qu'un garçon comme Fred Chapelier, qui fait partie également de cette rubrique My Rock Years, a lui aussi choisi un morceau de Deep Purple. Donc, ça montre que vous avez bon goût tous les deux, quand même. Alors, ce titre-là, Smoke on the Water, qui a une histoire, Fred Chapelier nous l'a un petit peu raconté. Pourquoi ce choix, Patrick? Pourquoi ce titre-là en particulier, c'est ça?
Pourquoi ce titre-là? Parce que j'ai ressenti en moi une espèce de feeling avec le rythme, avec la basse qui était derrière, qui était très présente aussi, et puis ces guitares qui lançaient quand même pas mal on va dire le son rock, donc c'était une sorte de feeling. J'ai ressenti en moi ce morceau là plus que les autres,
et c'était
comme ça.
Et peut-être aussi avec que l'histoire de ce morceau qui en fait raconte effectivement cet incendie au casino de Montreux.
L'histoire, mais moi au début c'était surtout l'histoire, c'est vrai que c'est une chose, mais c'est une manière de ressentir aussi la musique intérieurement, tu vois.
Très bien.
Ça c'est important, parce que j'avais discuté même avec des musiciens anglais qui m'avaient dit une fois, ça nous a fait très plaisir, ils me disaient, oui, vous en France, les Français, vous aimez bien écouter la musique, vous savez mieux ressentir la musique que nous, même si vous comprenez pas les paroles.
Voilà, ça c'est bien envoyé. On va écouter grâce à toi, Patrick, aujourd'hui ce titre mythique, un titre sur lequel il y a pas mal de gens qui ont perdu du sang sur les guitares. À essayer de refaire le riff. tu t'es essayé à jouer ce morceau-là aussi, j'imagine.
Ah, tout le monde a essayé.
Smoke on the Water. Merci Patrick, à bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir Marc.
Au revoir Patrick. Merci Patrick, merci à Patrick Devin Carlotti pour ce Smoke Underwater. On est revenu en 1972. L'invité de la semaine pour cette première heure, Mr. Matt.
J'ai trop saigné sur l'équipe. J'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, voyage toujours en fraude. Des chants coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, 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 quand elle guide mes pas.
Mister Matt, bonjour Matt, comment vas-tu?
Bonjour Marc, bah écoute, ça va très bien, merci, et toi?
Oui, très très bien, merci. On est à quelques jours après cette finale de folie de The Voice, voilà, sur TF1, et je tenais à te parler, et je te l'avais dit hein, avant ma demande d'interview, quel que soit le résultat, hein, maintenant le résultat, on le connaît, tu es finaliste et même deuxième, on ne dévoile rien, hein, c'est déjà médiatisé tout ça. Et je voulais savoir, en tout premier, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais c'était très rapide cette interview, on a peut-être maintenant un petit peu plus de temps pour se poser, Matt.
Ouais.
Je voulais savoir quelle était ta motivation principale justement pour te présenter à ce concours The Voice, la plus belle voix.
Bon, bah, écoute, je crois que je m'en suis jamais caché. Hein. Pour ma motivation principale, c'était de te dire d'essayer d'aller chercher un public que je n'aurais jamais touché autrement que par la voix de la télé ou par la voix des médias comme ça, un peu plus mainstream, parce que le monde de la musique est fait de telle manière que t'as pas bien le choix. Et puis c'était aussi un petit défi personnel de dire, bon, bah, 40 ans passés de peu, de me dire, bah, pourquoi pas finalement.
Ouais.
Et puis, bah, pari rempli, quoi.
Donc, voilà. Bah, exactement, pari rempli. Et tu prouves que c'était pas trop tard malgré la quarantaine sonnée.
Oh, je crois que c'est jamais trop tard dans la vie.
C'est jamais trop tard. Et ta place, tu l'as prouvé à chaque passage. Passage télé n'était absolument pas usurpé. Enfin, là, ça, c'est mon avis personnel. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Et justement, voilà, ta raison principale, élargir peut-être le cercle de ton public et puis te faire connaître par des gens qui ne te connaissaient pas auparavant. Moi, j'ai quand même une question par rapport à ton coach, celui qui s'est retourné en premier, finalement, Vianney.
Ouais.
Tu me disais l'autre jour qu'il n'avait jamais entendu parler de toi. Et c'était le cas aussi de Marc Lavoine et puis de Florent Pagny. Enfin, voilà, Mister Matt, qui est là depuis des années maintenant en solo, encore avant avec Mountain Man, ben, il n'était pas connu de ces gens-là, les coachs de The Voice, c'est vrai?
Ben non, ben, c'est tellement des mondes différents, j'allais dire, que...
Ouais.
que... Et puis il y a tellement de choses, on est à une époque où là, il y a tellement de choses, tellement de musique, on est tellement, j'allais dire, assommé de musique en permanence et de toutes parts que c'est difficile de tout connaître. Moi je connais pas,
bien sûr.
Enfin moi je connais pas tout, tu vois, on m'a parlé de chansons et de chanteurs pendant cette aventure que j'avais, et pourtant qui sont ultra connus que je ne connaissais absolument pas, quoi.
Mmh.
Et donc comment tout connaître? Donc c'est bien la preuve que j'ai eu raison de faire cette aventure.
Voilà, et tu fais bien de le préciser parce que ça a étonné nombre de tes fans, et on en connaît certains ici, même de ce côté-là,
ouais,
de la radio. Et alors justement, on s'était parlé, c'était juste après l'enregistrement de toutes les émissions, à l'exception des battles et puis des demi-finales et finales, bien entendu.
Ouais.
Et tu nous as dit, voilà, tout est enregistré, ça s'est bien passé, mais sans nous préciser si tu avais été qualifié pour la suite ou pas. Et justement,
bah, j'avais pas le droit de le dire.
Eh bien, tu n'avais pas le droit de le dire, par contrat, bien évidemment, ça on peut
exactement
le comprendre.
Ouais,
et est-ce qu'à ce moment-là, à la fin de ces enregistrements, sachant que tu étais qualifié pour la demi-finale, est-ce que tu avais l'espoir d'aller encore plus loin pour les directs?
Ben, au moment où on s'est rencontrés, moi je savais que j'étais déjà qualifié pour les demi-finales.
Ouais.
Moi j'ai essayé de prendre les choses un peu au fur et à mesure. J'ai essayé de me dire, voilà, ben, à chaque étape, fais-toi plaisir, essaye de faire quelque chose qui te parle, essaye de faire quelque chose qui te ressemble, et surtout, on m'a donné cette chance, ils m'ont laissé cette chance de rester moi-même. Ça a été plutôt hyper bénéfique, quoi.
Voilà, ça c'est très très positif, et ça m'amène justement à une question par rapport au répertoire, parce que lors des qualifications, tu as repris Ray Charles, Georgia, de façon magnifique.
Ouais.
Alors,
Georgia,
c'est lui.
Georgia,
c'est beau ça.
Ouais, ouais, ouais.
Ah ouais.
The sound of you.
Oh là là là.
Alors ça, moi j'aime beaucoup.
Just an old sweet sound keeps Georgia on my mind.
Non mais les gars.
Ah ben non, mais tu sais, moi je me pose pas de questions. C'est
putain,
à un moment donné.
All the arms to reach after me, all the hearts
smiled tenderly. Still in peaceful dream that see. Oh, the road.
Il y va quand même, hein.
Let's back to you.
Et ensuite, tu t'en es tenu au répertoire en français. Le choix des chansons en français, est-ce qu'il a été le fruit de ta seule décision ou est-ce que tu as eu une concertation avec Vianney ou avec d'autres encore ?
C'était ma décision à moi.
C'est vrai ?
C'est ma décision à moi Vianney a rapidement été d'accord avec moi, mais c'était ma décision que de chanter en français, ouais, ça c'est sûr. De toute façon, sur mon projet Mr. Match, je ne chante pratiquement qu'en français.
C'est ça.
Ça n'empêche pas de faire des incartades dans la musique que j'aime et dans le blues et dans l'anglais, mais quand j'ai arrêté Mountain Man, j'avais envie de partir vers autre chose et de me lancer un espèce de petit défi, quoi, parce que j'étais aussi, tu sais, aussi ma passion pour la chanson française et les textes et ces choses-là. Et,
bien sûr.
Et donc, moi, refaire toujours ce qui a été fait, ça me gonfle un peu. J'aime bien faire ça.
Alors voilà, refaire ce qui a été fait, non. Et justement, c'est peut-être ça qui t'a fait ne pas choisir ni Jacques Brel, parce que tu maîtrises absolument les Marquises, par exemple, ni Georges Brassens, dont tu connais tout le répertoire, et pour avoir fait un double album avec Mountain Man autour du répertoire de Georges Brassens. Et comment? Et là, donc, tu as choisi Francis Cabrel, tu as choisi Johnny Hallyday précédemment, tu as choisi Jean-Jacques Goldman, tout ça. Donc, tu confirmes, c'est bien toi qui as choisi ces titres-là.
Alors, j'ai choisi à chaque fois. Alors, à chaque fois que l'on choisit, c'est quand même une espèce de concertation quand même avec l'équipe de la prod, avec le coach, avec Vianney, avec ces choses-là. Voilà, on s'en parle et ils disent ce qu'ils en pensent, parce que moi, à chaque fois, j'ai proposé plusieurs chansons. J'ai proposé, à chaque étape, j'ai proposé 4-5 chansons. J'ai essayé, c'est aussi un espèce de jeu télé, donc j'avais quand même envie d'avancer un petit peu quand même dans cette histoire. Il ne faut pas se le raconter, parce que c'est plus tu es là, plus les gens t'identifient, plus il y a de gens qui te voient, tout simplement. Et donc, les choix sont un petit peu, j'allais dire, stratégique, mais sans renier ce que j'étais, et surtout en discutant de très près avec Olivier Schultes, qui a fait beaucoup d'arrangements dans cette aventure, et qui faisait les arrangements de toutes les chansons qu'on entendait, de discuter étroitement avec lui, de dire voilà, moi je veux ça. Par exemple, à la demi-finale, quand je joue Edith Piaf, j'avais envie de faire un espèce de bolero, j'avais envie de faire une version qui me ressemblait vraiment. Il a écouté, on a bossé étroitement, et ça a été exactement ce que je voulais, quoi.
Non. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
Et alors, au fil des étapes, effectivement, le choix des chansons, ça a été véritablement capital, on le comprend bien. Et le fait qu'il y ait effectivement une concertation entre coachs, ça évite les doublons. C'était inimaginable qu'un autre chanteur reprenne des chansons que tu allais faire.
Hein, bien sûr.
Il fallait pas.
C'est quand même une énorme. Cette émission, c'est quand même un énorme paquebot.
Et oui.
Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment, on ne se rend pas du tout compte que de la grosseur, des moyens mis en œuvre pour une émission comme ça. C'est presque 200 personnes qui travaillent en permanence. C'est gigantesque, quoi.
Une
équipe. Donc, oui, bien sûr que tout est calé aussi pour que ça reste aussi un show télé, un show entertainment de télé, avec un concours de chant. Donc, bien sûr qu'il n'y a jamais de doublon, c'est pas possible.
Voilà, il fallait une cohérence, effectivement, au niveau du répertoire. Est-ce que les artistes que tu as choisis avaient été préemptés par d'autres ou pas du tout ?
Non, je crois pas.
Non, d'accord. Voilà.
Non,
puis alors effectivement une grosse machine et puis une grosse organisation. Tu parles de 200 personnes de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous révéler quelques petites choses ? Est-ce que on voit tout ce qui se passe à la télé ou est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ? Notamment, je pense aux musiciens, les gens qui t'accompagnent, enfin qui vous vous accompagnent, tous les candidats. Ce sont des gens triés sur le volet, ce sont des requins de studio, c'est qui
tous ces musiciens-là ? Ah bah oui, les gars qui sont... Bah les mecs qui sont... Moi, les gars, je les connaissais parce que j'avais déjà fait quelques sessions de studio avec eux.
Ouais.
Mais oui, c'est tout. Bah, c'est que vraiment les gros tueurs, c'est des mecs que t'entends sur la plupart des chansons que t'entends à la radio, quoi. Il y avait Seb Soir à la guitare, Tom Kerr à la batterie, Aziz à la basse, il y avait Loïc Pontieux à la batterie. Vraiment, il y a vraiment que des tueurs, quoi. Donc, c'est un plaisir de jouer dans un tel confort avec, en plus, des moyens qui sont vraiment énormes. Le plateau, c'est gigantesque avec une débauche de son. C'est vraiment, on est dans un confort extrême et absolu, quoi.
Et alors, cette mise en scène qu'il y a quand par exemple vous chantez à plusieurs et que toi tu rejoins les autres par la suite, tout est coordonné,
ouais, c'est du travail pendant une semaine complète.
Ça s'apparente un peu au théâtre, ce travail-là de répétition, parce qu'il faut aussi soigner la mise en place, la mise en scène.
De toute façon, je vais dire, la musique c'est un travail, hein. Donc là, pour monter un show d'une telle grosseur, j'allais dire, ça demande beaucoup de travail. Donc c'est pour ça qu'une aventure comme The Voice c'est hyper prenant et que ça prend beaucoup de temps sur tout ce que l'on fait. On est vraiment dans un petit cocon et on travaille pendant tout ce temps. On a des grosses journées de répète et tout ça, et c'est quelle aventure, vraiment.
Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer.
Bravo.
Et est-ce que l'ambiance justement au sein de l'équipe est aussi bonne qu'on le devine ? Est-ce qu'il y a de la rigolade ? Est-ce que c'est détendu ?
Ah oui, vraiment, vraiment. Ouais. C'est vraiment. Je pense qu'on a tous des a priori, je crois, sur ce genre d'émission. Moi, le premier.
C'est vrai que tu as même écrit une chanson là-dessus il y a quelques temps.
Ouais, exactement. Moi, le premier, j'avais beaucoup d'a priori sur ce genre de choses-là. Bah, la chanson que j'avais écrite, elle parlait surtout du. Ça, je crois pas avoir changé d'avis là-dessus. C'est la chanson que j'avais écrite, c'était surtout sur le fait que ça me faisait peur pour certaines personnes qui pouvaient se faire mal.
Oui.
À l'idée que d'aller dans ce genre d'émission.
Et puis là, tu englobais peut-être aussi les émissions de télé-réalité et pas seulement les télécrochets.
On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Et en l'occurrence, moi, les a priori, je pouvais en avoir parce qu'on se dit, c'est une émission de samedi soir sur TF1, c'est TF1. Et pour le coup, je ravale ma salive parce que je n'ai rencontré que des gens d'une extrême bienveillance, d'une efficacité sans faille et avec beaucoup d'humanité. Et c'est vraiment de toutes les émissions de télé que j'ai pu faire, j'ai vraiment rencontrer des gens d'une incroyable bienveillance. Vraiment.
Est-ce que c'est le genre d'ambiance que tu retrouvais, par exemple, quand tu te produisais chez Nagui à Taratata, ou est-ce que c'est encore différent ?
C'est différent parce que c'est sur la longueur. Taratata, tu y vas pour la journée, et puis tu fais ton émission, et puis le soir, t'es rentré, et puis voilà. Là, on passe du temps, c'est pratiquement 15 semaines non-stop. Alors, on ne sait pas 15 semaines sur place, mais c'est beaucoup de temps passé à l'hôtel. C'est presque un mois et demi chacun, un mois et demi dans le même hôtel avec les mêmes personnes. Donc forcément, tu ne crées pas les mêmes liens. Mais n'empêche que l'équipe de prod et l'équipe d'ITV et de TF1 sont des gens incroyables. Mmh. Je ne peux pas dire mieux que ça. J'ai rencontré que des gens qui aiment les artistes, qui ont pour vocation et qui n'ont qu'une idée, c'est de dire nous, on n'est pas là pour déformer les artistes, on est là pour les mettre en lumière et leur montrer tels qu'ils sont. Alors bien sûr, ils sont là aussi pour faire un business, c'est leur travail. Ils ont une émission à faire tourner, ils veulent de l'audimat, bien sûr, ça, on est d'accord. Mais moi, de tout ce qui a été, de tout ce que j'ai fait, toutes les images que l'on a mis de moi, tout ce que j'ai pu dire en interview, je sais que j'ai fait des longs interviews. Il n'y a pas un seul mot qui a été déformé de ce que j'ai dit. Aucun.
Ça, c'est bon à savoir. Je crois que tu vas faire plaisir à pas mal de gens, et y compris les gens qui vont écouter cette interview.
Moi, je n'étais rien, voilà, aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé des chiffres, des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous. Ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi.
Est-ce que pour toi, une émission comme The Voice, ça, qu'est-ce que ça apporte humainement d'une part et artistiquement de l'autre, pour toi précisément?
Artistiquement, c'est déjà c'est plein de rencontres et ça donne plein d'idées pour plein de choses. Et après, humainement, le Matt qui rentre dans cette émission et qui en ressort, c'est le même. Mais le Matt qui ressort de cette émission, il est riche de beaucoup de choses. Donc, et humainement et professionnellement, et c'est vraiment hyper intéressant, quoi.
Avoir participé à The Voice, c'est une aventure humaine quelque part pour toi.
Ah oui, complètement, bien sûr.
Et on va plus précisément parler peut-être de Vianney, qui était ton coach. Il y a des gens qui m'ont demandé des choses, et notamment, qu'est-ce qu'un gamin comme Vianney, j'ai vérifié, il a 13 ans de moins que toi, hein, c'est vrai que c'est un gamin, a pu apporter au vieux roublard de la musique, qui était Mr. Matt.
Alors, voilà. Je ne sais pas si je suis un vieux roublard de la musique, mais je ne crois pas qu'il y ait... Apprendre des gens, je ne crois pas que ce soit une histoire d'âge. Des fois, on apprend de gens qui ont 20 ans de moins que soi, et c'est très bien comme ça. J'ai toujours pensé qu'un des plus gros mâles de notre monde, c'était l'ego. Donc moi, mon ego, je sais très bien où je le mets et je sais très bien où est ma place. C'est jamais que dans un sens. Moi, je pense que par plein de choses, j'ai appris des choses à Vianney et lui, dans son sens, et dans d'autres moments, il m'a appris plein de choses. Le mec est tellement simple. Moi, ce qui me plaît dans un mec comme Vianney, c'est que le gars que tu vois à la télé ou que t'entends ou que tu vois dans ses concerts avec beaucoup d'énergie, quand j'ai bossé chez lui, on était chez lui la semaine dernière, c'est le même.
D'accord.
Le mec, il cherche pas à être quelqu'un d'autre, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'intelligent, de talentueux, de très musicien. Après, c'est subjectif, on aime, on n'aime pas, ça c'est un autre
bien
discours.
Sûr, bien sûr.
On a le droit d'aimer, de pas aimer, et ça discute pas. Mais moi, je te parle d'un mec qui a, 31 ans, bien sûr, mais qui a un talent monstre, un talent monstre, et qui fait des choses, et en tout cas, qui suit son chemin de manière très classe, quoi.
Lors des éliminatoires, on a vu tout le monde se retourner, Vianney s'est retourné en premier, c'est lui que tu as vu en tout premier te regarder continuer ta chanson. Georgia and My Mind, et puis ensuite les autres ont suivi parce qu'ils l'ont dit à ce moment-là précis, c'est pas possible de pas se retourner quand on entend la voix de Matt. Est-ce que tu aurais pu avoir choisi un autre coach, et si oui, lequel? S'il n'y avait pas eu Vianney, ça aurait été lequel autre?
Ça m'a fait plaisir que les quatre se retournent. À Vianney, j'y suis allé un peu à l'instinct parce que voilà, c'est ce que je ressentais, les petits quelques mots que j'ai eu. Naturellement, je serais allé vers le deuxième avec qui j'ai lié de beaucoup de liens. J'ai passé un long moment au téléphone avec lui hier, c'est Marc Lavoine. Parce que j'adore le bonhomme. Voilà. Le bonhomme est très cool. Pareil, c'est un vrai gars, quoi. Moi, j'aime bien les gens qui voient souvent les choses sous un autre angle. Et après, Amel Bent a été adorable avec moi.
Amel Bent, elle était en admiration, hein, à chaque émission.
Ouais, c'est un amour de fille. Je vais même te dire, tu vois, je après la soirée de The Voice, on a terminé, on a fait une énorme fête quand même.
J'imagine, un petit peu, oui.
Ça a été,
soirée cristalline, quoi.
Ça a été bien. Et on a passé un long moment, voilà.
D'accord.
Et moi, j'ai à Amel, je lui dis, tu sais, je sais même pas qu'est-ce que tu chantes. vraiment, j'ai été honnête, mais je sais même pas ce que tu chantes, Amel. Mais peu importe, en fait. Donc, moi, j'irai certainement écouter. Je suis pas persuadé que ce soit mon univers, mais en tout cas, elle est super, cette fille.
Oui, et puis en plus, tu l'as entendu chanter avec ses poulains. Enfin, elle a une voix, on est bien d'accord.
Ouais, elle
et puis, vraiment, pour être complet, Florent Pagny, lui, tu le connaissais forcément, on peut pas passer à travers.
Bien sûr, bien sûr.
Et lui, non, tu l'aurais pas sélectionné. T'avais le choix, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire.
Ouais, je serais pas allé vers lui. J'ai absolument rien contre lui. Mais je serais pas allé vers lui. Non. Puis je crois pas que j'étais l'archétype de gens qui l'aimaient dans cette, enfin qui l'aiment. En tout cas, qui l'aurait aimé accompagner. C'est quelqu'un qui pleurant, qui aime les grandes voix avec beaucoup de techniques, avec des voix, avec tu vois toutes ces techniques, ces trucs. Ce que je n'ai pas. Moi, je chante de manière brute, terreuse et
spontanée.
Et spontanée, et très instinctive, quoi. Donc, je suis pas du tout le genre de personne. Naturellement, je suis plus allé vers des gens comme Marc Lavoine ou Vianney, justement, parce que plus proche de mon univers.
On te devine de toute façon, Matt, on te connaît depuis des années, on te devine beaucoup plus proche de Johnny Hooker que de Luciano Pavarotti, on est bien d'accord.
Ouais, j'aime bien Pavarotti quand même.
Oui, mais alors effectivement, l'univers de l'opéra que côtoie par exemple Florent Pagny, c'est encore une autre façon de faire, quoi. Même, voilà, on peut...
Ouais, bien sûr, mais voilà, je suis un grand artiste avec beaucoup de talent, mais voilà, bon, ça s'est fait comme ça, puis bon, moi je crois que c'est bien fait parce que bosser avec Vianney, c'était très cool, et puis surtout d'aller vers quelque chose où j'ai pas, moi j'ai jamais essayé de faire des démonstrations vocales, quoi. c'est pas mon truc, j'ai juste essayé de chanter, mes chansons. Quoi.
Oui, mais pourtant, enfin, on te connaît, on te pratique depuis des années, et puis ceux qui te découvrent, à mon avis, vont prendre une grosse baffe. Il va y en avoir quelques-uns encore cette semaine qui vont essayer d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de ce que tu fais et qui vont forcément remonter, par exemple, à ce fabuleux album Hope. À chaque fois, je t'en parle de ce truc-là, des Wanted Men.
Ouais.
Difficile de faire beaucoup mieux que ça. On va revenir un tout petit peu sur la finale. Tu avais chanté Je l'aime à mourir de Cabrel, Quand la musique est bonne de Goldman, et puis également un duo avec Bentissa. Ce titre est bam, et on va préciser que Bentissa, qui était finaliste en 2021, t'as un petit peu passé le flambeau finalement avec ce duo. Et je voulais savoir d'une part comment tu avais vécu le fait d'avoir chanté cette chanson que tu ne connaissais pas forcément auparavant. Et puis la deuxième partie de la question après, si tu veux bien.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale.
Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique.
Je connaissais cette chanson, mais je trouve que c'est, pour le coup, je trouve que c'est une grande chanson.
D'accord.
Je connaissais cette chanson, même si je l'avais jamais rencontrée avant et. Voilà, on s'est rencontrés quelques jours, enfin on s'est parlé quelques, ça fait 2 semaines que l'on se parle un peu. C'est une incroyable personne, une gentillesse, une douceur rare, c'est vraiment quelqu'un de super. Et cette chanson que Vianney lui a écrite, pour moi c'est une très grande chanson, mais vraiment vraiment. Et j'étais super content de chanter cette chanson parce que je la trouve tellement simple et belle que ça a été un plaisir de la chanter avec elle.
Et ben tu vois, le deuxième volet de ma question, c'était par rapport à l'édition 2023 de The Voice. Moi j'ai quand même l'impression que tu vas être invité à faire un duo avec quelqu'un, hein, en tant que, non pas gagnant mais finaliste, parce qu'elle aussi était finaliste. Et si c'est le cas, est-ce que tu as déjà choisi la chanson que tu voudrais faire chanter le prochain ou à la prochaine?
Pas du tout, non, j'espère. Je pense que d'ici là, il y aura d'autres chansons qui seront arrivées. Bon, je me suis pas projeté jusque-là, je t'avouerai. Oui. Mais écoute, on verra bien. On verra bien.
Alors, puisqu'on est dans l'avenir, effectivement, après toute cette grande aventure humaine qui t'a emmené jusqu'aux portes de la finale l'autre jour, tu l'as dit toi-même, un grand pan de ta carrière va évoluer de façon positive, bien entendu. Qu'est-ce que tu penses que vont être les retombées pour toi de ce passage dans The Voice, la plus belle voix?
Ben, je sais pas les retombées. J'allais dire, c'est 15 semaines de travail. Pour moi, le vrai travail, il commence ce matin. Il commence le lundi matin, juste après le vrai travail après The Voice, c'est le lendemain de la finale de The Voice. C'est parti, on y va et on se lance dans l'aventure maintenant. Moi, il y a plein de choses qui sont en train de bouger avec maison de disques, producteurs, managers, tournées. Pas mal de choses sont en train d'avancer et bouger dans le bon sens, forcément. Et il y a des choses qui vont se faire très 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 vite, justement, pour rebondir sur toute cette embolée The Voice. Il y a les retombées sont plutôt gigantesques dans le sens où on voit la puissance de la télé et des médias. Je ne peux plus sortir dans la rue sans me faire arrêter de partout.
Ah, c'est top, ça.
Que ça soit à Paris, à Grenoble, à Waron, à Caen ou n'importe où, j'en sais rien, mais voilà.
Même à Franqueville-Saint-Pierre, figure-toi.
Même à Franqueville-Saint-Pierre, en Normandie. C'est vraiment tu te rends compte de la puissance de la télé. Moi, mes réseaux sociaux ont explosé. Juste avant l'émission, mes réseaux étaient. Ils avançaient bien, hein, mais si je te montre la couverture que ça porte.
Oui, mais moi, j'observe les likes et les commentaires.
Mon compte Instagram, la portée de mes publications devait être à peu près à même pas 10 000, ça devait être 8 ou 9 000 à chaque publication. Et là, ce matin, si je te le dis en direct, c'est portée des publications 680 000.
Ah, oh, c'est incroyable.
Donc Facebook, ça devait être 15 000 et là c'est 450 000, donc tu vois,
c'est énorme.
C'est, c'est juste voilà. Alors je sais que ça va retomber parce qu'il y a l'effet télé et que après ça redéfend, mais n'empêche que voilà, c'est pendant que justement, c'est pour ça que je dis que le travail commence maintenant, c'est pendant qu'il y a cette portée qui est très très large, c'est là qu'il faut bosser, c'est là qu'il faut être vu.
Et voilà, on dit
plein de projets, plein de choses et qu'il faut avancer quoi.
Et on dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et tu as tout à fait raison. L'été arrive et puis les festivals ont presque tous bouclé leur programmation, mais on va pouvoir te retrouver sur scène très vite. Quel est le lien, toujours le même, pour aller voir ton actu, Matt?
Eh ben sur Facebook et tout ça, il y a un site internet qui est en construction qui va arriver très très vite.
Très bien.
Voilà, tout est en train de se remettre en place. Donc j'ai pas mal de dates au mois de juillet. Et puis surtout, ben voilà, le gros du travail, ça va se faire à partir de l'automne 2023 qui va être, qui, j'espère, très chargé.
Voilà, une preuve de plus que, par exemple, le blues, mais qui n'est pas la seule de tes influences, il y a également la chanson, mais en tout cas, eh bien, ce sont des musiques qui peuvent aller jusqu'au plus haut niveau d'écoute, hein, plus haut niveau d'auditeur.
En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, parce que dans chaque passage que j'ai fait, il y avait la trame de cette musique qui était là, et qui est indissociable de moi, en fait, je crois. Elle est indissociable que je chante Brassens ou mes chansons ou Johnny Lee Hooker. La trame et la racine de cette musique, elle fait partie de mon ADN musical. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui musicalement a une identité très forte. Le blues fait partie de cette identité, quoi.
Effectivement, et c'est ce que tu dis à chaque interview. On se connaît, je te connais depuis 17 ans maintenant, et à chaque fois qu'on se parle, on en arrive à la même conclusion. Ton ADN, c'est ça, hein, principalement le blues, et tu t'en départis pas. Et en 2022, on va rassurer les rares personnes qui pourraient être inquiètes suite à ton passage à The Voice, tu es toujours capable de remplacer un Bernard Selam au sein de Awek, par exemple.
Mais carrément.
Matt, merci pour tout ça. Merci pour cette belle interview. Et puis, bon vent, bien sûr, à toi, à tous ceux qui t'aiment. Et puis,
c'est gentil. Merci
voilà,
beaucoup,
on croise les doigts. Et puis, ça va forcément bien se passer. Bravo encore. Bravo.
Merci.
Au revoir, Matt.
Au revoir. Ciao, ciao.
Je n'ai pas suivi la bonne route, le droit chemin. J'ai marché sous la pluie en faisant peur aux gamins. Je n'ai pas tenu parole, les doigts croisés sur le cœur. J'ai trafiqué mes paroles pour camoufler mes erreurs. Je n'ai pas toujours aimé aussi fort que j'aurais dû. Des nuits je ne suis pas rentré, le matin c'était perdu. J'ai trahi les symboles dans lesquels il fallait croire. Abandonner les idoles pour mieux briller dans le noir. Je cherche encore ma place. No, no, no. Je n'ai pas perdu ta trace. J'ai vu le soleil de si près qu'il faisait fondre le ciel. Des corbeaux dans la forêt qui traquaient les hirondelles. J'ai dansé sous la foudre pour lui voler sa lumière. Toujours prêt à en découdre pour maîtriser le tonnerre. J'ai fait l'amour bien plus souvent que j'ai pu faire du mal. J'ai prié le firmament d'éclairer ton étoile. Je veux retrouver ma route là où elle croisera la tienne. Laisser s'envoler le doute et t'avouer que je t'aime. Yeah, yeah, yeah. Je n'ai pas perdu ta trace. Yeah, yeah, yeah. Je cherche encore ma place. No, no, no. Je n'ai pas perdu ta trace. Oh yeah.
Merci Matt, merci pour toutes ces précisions, tous ces souvenirs. On a pu découvrir grâce à toi l'envers du décor de cette émission The Voice. On ne pouvait pas terminer une interview de Mr. Matt sans un album de Mr. Matt. C'était Du Bonheur en Retard, le titre Ma Place, sorti en 2021. Juste avant, on a pu entendre quelques extraits de l'émission. Quand la musique est bonne, Georgia, non je ne regrette rien, Oh Marie, Je l'aime à mourir et Bam en duo avec Mentissa. Et puis pour être tout à fait complet, on va revenir 10 ans en arrière sur un album qui a fait date. C'est l'album Hope des Mentissa. Voici ce fabuleux titre Move Up to the Door.
Mmh. listen, spill not a sound. Silently you will find, look out, up coming down. Why night is start to shine, move on from where you stand. Another will take your place. Passion's heart in your hand. Together cut to the chase. When the corridor gets crowded, move up to the door. When it's time to find new ground, move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. From your heart, beating in the perfect time, looking to who you are. Honesty will take you there. Old time, how the chaos explodes. Others will follow you. Fear not, we'll lead the road. Never will you fall behind. Time to find a new ground. Move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. When the corridor gets crowded, move up to the door. To find a new ground, move up to the door. Complications, let them lie. Move up to the door. Move on.
Move Up to the Door, les Mountain Men. Merci encore à Matt pour cette interview. On termine avec le CD du mois, comme on avait commencé cette première heure. Ça s'appelle tout simplement Two Timing, featuring Tito Jackson, le frère de Michael Jackson, qui intervient sur cet album de Kenny Neal.
That woman got eyes for me. Anyone with eyes can see. You know I love when we're having fun, but I know I'm not the only one. Oh, baby, I don't know how this gonna work out. She's moonlighting, sneaking around, thinking I don't know. She's too tiny, I know. Give me everything that a man can wish for. But when I leave, she don't even close the door. Two times.
That woman got a thing for tea. Take one look, it ain't hard to see. I love it when she puts it down, but something tells me she's been fooling around, and I don't know, I just don't know how it's gonna work out. Cause she been
moonlighting, sneaking around, thinking I don't know, she's too tiny.
I know she's been
moonlighting, sneaking around. Give me everything that a man can wish for. But when I leave, she don't even close the door.
Monsieur Kenny Neal qui invite Tito Jackson, qui n'est pas d'ailleurs le seul invité de ce disque qui s'appelle Straight from the Heart pour le compte de Roof Records, disque du mois pour Sweet Home Chicago. On y retrouve également Kriston, Kingfish Ingram dans un titre qu'on a écouté la semaine dernière, Mount Up to the Wings of the King. Et puis également Monsieur Rocking Dopsy and the Zydeco Twisters. Après Kenny Neal, eh bien on se retrouve tout à l'heure en deuxième heure pour cette interview avec Quentin Winter.